CJSO 101.7.
La Tribune, une présentation de Meubles André Beaulieu et de Lucier.
À CJSO 101.7, la parole est à vous. Place à la Tribune. Voici Sylvain Rochon.
Bon mardi 22 février, tout le monde. À l'émission aujourd'hui, la levée des mesures sanitaires qui auront à peu près là, toutes disparu le 14 mars. Mes invités, est-ce qu'ils s'en sentent libérés ou est-ce qu'ils craignent une nouvelle flambée de cas? Je m'entretiens aujourd'hui avec 12 personnes. Julie Laulier, René Lachapelle, David Gauthier, Sophie Pagé-Sabourin, Denis Gagné, Guillaume Venn, Martin Rousseau, Julie Laberge, Lisette Trépanier, Louis-René Lafont, Alain Larouche et Christian Deschênes. Restez là, ça promet d'être intéressant. La Tribune, rapidement de retour après la pause.
Leader centenaire, bien implanté dans toutes les régions du Québec, Lucier Dale Parizeau devient Lucier. Une nouvelle identité pour mieux représenter notre marque rassembleuse. Toujours la même écoute, toujours le même service conseil, avec une seule mission, trouver la meilleure façon de protéger vos actifs humains et financiers. Découvrez notre vision renouvelée. Lucier.co.
La Tribune. Une présentation de Meubles André Beaulieu et de Lucier.
À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à la Tribune.
Docteur Julie Laulier est directrice de la santé publique de la Montérégie. Bonjour, Docteur Laulier.
Bonjour.
Quel est le portrait de la Montérégie actuellement, Docteur Laulier, relativement à la COVID-19? D'abord, est-ce que c'est seulement encore possible d'avoir un portrait fidèle ou c'est de plus en plus compliqué?
Bien, en fait, on ne suit pas les mêmes choses qu'on suivait pendant les vagues précédentes, c'est-à-dire que, étant donné que ce n'est pas toutes les personnes qui ont des symptômes qui ont accès à un test PCR, on suit d'autres indicateurs. On peut suivre, par exemple, les hospitalisations, les taux d'absentéisme à l'école. Donc, je vous dirais que la situation à Montérégie ressemble à ce qu'on voit ailleurs au Québec. La plupart des indicateurs, sinon tous, sont en amélioration actuellement.
Le dernier chiffre publié par l'INSPQ pour le réseau local de services Pierre de Sorel ce matin à 11h, c'était 57. Transposé sur 100 000 habitants, ça nous confère la meilleure position en Montérégie ici. Il faut se réjouir.
Bien, on peut se réjouir. Il faut toujours faire attention. Hein. Quand on a des plus petits découpages, des petites variations dans les nombres permettent de varier très rapidement. Mais somme toute, je pense que effectivement, dans le RLS Pierre de Sorel, tout comme ailleurs en Montérégie, il faut se réjouir de l'évolution actuelle de la situation. Les hospitalisations sont en baisse, les décès aussi, donc ce sont quand même de très bons signes. Bon.
On nous a, Dr Laulier, pendant 2 ans, répété que manquer de prudence, ça risquait de nous jouer des tours. On en fait de moins en moins preuve de prudence. Les mesures sanitaires sont abandonnées les unes après les autres jusqu'à leur disparition quasi complète le 14 mars. Et pourtant, les hospitalisations diminuent. C'est vraiment dur à suivre.
Bien, il y a plusieurs raisons. D'abord, la vague qu'on vient de vivre a été très, très, très importante, ce qui fait que le nombre de personnes infectées, est soccuplé aux proportions de gens qui sont protégés par le vaccin. Veux pas, c'est naturel que la courbe, à un moment donné, diminue. Le Omicron a été très contagieux, donc on peut penser qu'il y a quand même une part de la population qui s'est infectée, puis quand on est infecté, on est protégé par après. Maintenant, par rapport à votre commentaire sur l'assouplissement des mesures, ça fait 2 ans qu'on est en pandémie, puis on voit bien sûr les impacts de l'infection sur les hospitalisations, mais on voit aussi beaucoup les impacts des mesures sur la santé mentale des gens, sur la santé économique de la société. Donc, quand on prend des décisions, oui, il y a la circulation du virus, mais il y a aussi tous ces impacts collatéraux-là qu'il faut mettre dans la balance.
Le premier ministre disait il y a quelques jours ou semaines, là, qu'il fallait y aller mollo avec les assouplissements. Est-ce qu'il vous apparaît qu'on y va vraiment mollo tant que ça?
Je pense que chacune des décisions est vraiment bien pesée. Hein, le cabinet du premier ministre est bien soutenu par différents conseillers, dont la Direction générale de santé publique. Je vous dirais que le calendrier est quand même progressif. Il y a des mesures qui vont graduellement. Donc, je vous dirais que il y a pas une recette qui est parfaite actuellement. Puis la solution, c'est vraiment de regarder et de suivre de très près les indicateurs qu'on a. Puis, par chance, les indicateurs d'hospitalisation, ils sont très fiables. On n'en manque pas. Donc, je pense que les assouplissements, il fallait les faire. Puis, on va suivre de très près l'impact sur les indicateurs de santé.
Là, il y a l'abandon du masque pour les élèves au primaire et secondaire qui se parlent. On voit apparaître ça dans les médias. C'est pas confirmé, ça. Mais ça s'en viendrait?
Bien, il va falloir éventuellement que ça s'en vienne. À quelle vitesse ça arrivera? Bien, ça fait partie d'une panoplie de mesures pour lesquelles on se questionne actuellement, effectivement. Pour la majorité des élèves, il peut y avoir peu d'impact, mais pour une certaine part des élèves, le port en continu du masque dans les classes peut y avoir des impacts. Donc, ça fait partie des mesures qui sont étudiées actuellement par les autorités.
Il n'y a pas de risque, Dr Lollier, ça va être ma dernière question, il n'y a pas de risque de retourner en arrière?
Mais il y a toujours des risques d'une nouvelle vague, hein. Puis ça, je pense que tout le monde l'a toujours dit. On n'a pas, malheureusement, on n'a pas de boule de cristal avec ce virus-là. Donc, est-ce que ça sera la dernière vague? Je ne crois pas. C'est un virus qui est cyclique, qui est appelé à revenir. Par contre, est-ce qu'on va retourner dans les mêmes paradigmes de gestion d'une prochaine vague, c'est-à-dire des confinements sévères puis tout ça? Je dirais que c'est moins probable. Probable que ça l'ait été dans le passé. Tout le monde actuellement, la tangente est plutôt d'apprendre à vivre avec le virus, et ce, en raison des impacts collatéraux des confinements. Donc, est-ce que c'est la dernière vague? Probablement pas. Mais est-ce qu'on devra les gérer différemment, ces vagues-là? Oui.
Dr Julie Lollier, directrice de la santé publique de la Montérégie, merci beaucoup de cet entretien.
Ça me fait plaisir. Bonne journée.
Merci à vous. René Lachapelle a œuvré dans le milieu de la santé et des services sociaux toute sa carrière, services sociaux particulièrement. Bonjour, René.
Bonjour.
Après 2 ans de pandémie, de relatives privations pour les Québécois, le gouvernement Legault lève graduellement les mesures sanitaires qui bientôt auront toutes disparu. Le passeport sanitaire sera lui-même bientôt chose du passé. Est-ce qu'on était moralement dû? Est-ce que c'est parce qu'on était moralement dû? Est-ce que c'est parce que le gouvernement sentait perdre le contrôle et puis des appuis politiques qu'il a décidé de déconfiner aussi énergiquement? Ou est-ce que c'est vraiment la science qui a dicté ça?
Bien, d'une part, je pense qu'il faut se dire que la science, au niveau des sciences sociales, puis en santé publique comme dans d'autres, on n'est pas dans des sciences mathématiques, là. En quelque part, il y a une partie où on apprend en le faisant. Ça a été apparent dans la gestion de la crise. Donc, moi, quand j'entends l'annonce des mesures de déconfinement, ben, je me dis, bon, il y a au moins une considération que ça prend en compte, qui n'était pas prise en compte dans la première partie, c'est il y a un effet sur la santé sociale de la population. Alors, on peut soigner la santé physique, là, puis les vaccinations, le confinement, le masque, bon, toutes ces mesures-là de prévention, c'est pour la santé physique. Mais en quelque part, là, moi, je pense aux étudiants du secondaire ou du cégep, puis même à l'université où j'enseigne, c'est nettement pas facile de garder un bon tonus là, d'apprentissage dans un contexte de confinement. Alors, de ce point de vue-là, il y a un élément important. Je pense aussi qu'il y a les populations qui en ont souffert beaucoup, là. Les personnes qui sont seules, qui vivent seules à la maison, qui sont isolées, les personnes qui vivent des situations pénibles ou qui sont en situation de pauvreté, ces gens-là ont particulièrement souffert. Donc, en quelque part, qu'on allège les mesures puis qu'on permette la reprise d'une vie sociale, il y a quelque chose de sain là-dedans.
Le convoi, René, le convoi des camionneurs pour la liberté, est-ce que ça a shaké le gouvernement?
J'espère que non. J'espère que c'est pas à cause de ça qu'on a déconfiné. Parce que le convoi de la liberté, moi, ce qui m'inquiète, c'est le convoi du mensonge. C'est-à-dire qu'en quelque part, ces gens-là se créent un univers parallèle, ils se croient puis ils se confortent ensemble. Moi, je pense que la solution dans la gestion des situations de crise, c'est la démocratie. là-dessus, là, on a peut-être des questions à poser au gouvernement Legault, puis au gouvernement Trudeau aussi, mais il faut poser la question aux camionneurs aussi. Hein. Ils ne permettent pas de faire un débat. Ils imposent leur propre analyse, souvent basée sur des faits qui sont tout à fait erronés. Alors, à ce moment-là, c'est anti-science, mais c'est anti-aussi démocratie, puis c'est anti-liberté. Quand je les entendais crier « liberté, freedom », tu dis « bon, à quelque part, ils sont sur une autre planète, là. Ils vivent pas dans une société civilisée, ces gens-là. »
Est-ce que tu es inquiet que notre liberté retrouvée se traduise par une flambée de cas?
C'est toujours possible. Moi, je pense que ce qui est arrivé dans les derniers temps, là, c'est on remarque que les infections qui surviennent sont moins dommageables, donc affectent moins la santé publique. Et donc, on vit avec la grippe, là. C'est jamais agréable, puis ça met du monde en terre, ça en tue même des gens, là, la grippe, mais en quelque part, on vit avec. Quand on dit qu'il faut apprendre à vivre avec le virus, moi, c'est un petit peu ça que je comprends, mais je me dis, bon, allons-y pas trop vite, là, parce que il y a des gens vulnérables aussi. Tu sais, les gens qu'on dit immunodéficients, là, ben à ce moment-là, ces gens-là sont beaucoup plus fragiles, puis ils vont souffrir davantage. C'était le cas des personnes âgées dans la première vague. Donc, allons-y doucement, mais en même temps, moi, je pense, on verra, là, tu sais, s'il faut réimposer des mesures de confinement, j'espère que les autorités publiques auront le courage de le faire.
Ouais, le gouvernement a reculé sur la contribution santé des non-vaccinés. Ça n'avait pas d'allure, cette affaire-là?
Non, non, ça vraiment, là, vraiment, c'est un dérapage. Là-dessus, une des choses qui m'inquiète dans la gestion, là, c'est la façon dont ça a été géré par le gouvernement. Il y a des éléments catastrophiques. Tu sais, un gouvernement qui fonctionne par décret depuis 2 ans, normalement, ces mesures-là sont des mesures à court terme. Alors, 2 années de gouvernement par décret, sans faire attention aux conséquences qui arrivent dans la vie des gens. Le premier ministre a l'air d'être entouré de gens qui disent toujours qu'il fait bien les choses parce qu'il est populaire pour les élections. Tu sais, je me dis, il y a plein de signaux très inquiétants qui font qu'en quelque part, si on a à prendre des décisions qui vont bousculer les gens, puis moi, je pense qu'il y a eu des imprudences. Tu sais, quand le premier ministre Legault a nous annoncé la fin du tunnel, là, ben, il y a eu beaucoup de tunnels au cours des 2 dernières années.
René, je dois te remercier tout de suite. Merci beaucoup, René Lachapelle.
Ça m'a fait plaisir.
Merci. À la prochaine, oui. David Gauthier est, pour ainsi dire, notre pharmacien de résidence à CJSO. Bonjour, David.
Bonjour, Sylvain. Ça va bien?
Oui. Puis, as-tu pas pogné la COVID, lui, ces derniers jours? Est-ce que vous allez mieux?
Je vais mieux. Et comme j'ai dit à votre confrère avant de rentrer en onde, vous êtes ma première activité professionnelle depuis 11 jours. Je suis la preuve que ce virus-là... présentement, peut nous affaiblir quand même pas mal et a un impact sur nos activités sociales et économiques, là, parce que je reprends le travail seulement demain, Sylvain.
OK. Alors, ça a été musclé, votre COVID, là, malgré vos 3 doses?
Absolument. J'ai 3 doses. J'ai attrapé le COVID. Là. Je pense que ça venait de la garderie de mon fiston qui, lui, a été en pleine forme dans les 10 derniers jours. Et ma conjointe à la maison, Sylvain, ne l'a jamais attrapée, a toujours testé négative, en tout cas sur les tests rapides. Il faut penser que peut-être que sa charge virale n'était pas assez forte pour que le test le détecte. Mais de mon côté, les tests étaient sans équivoque là, très, très, très positifs. Et j'étais le seul malade, et assez malade, je vous dirais, là, avec un manque d'énergie flagrant. Donc, je suis aussi la preuve que le vaccin fonctionne parce que mes poumons sont restés en santé. Et comme je dis des fois à Valérie lors de nos chroniques, moi, quand je suis malade, mes poumons sont fragiles. Rapidement, je dois prendre des pompes pour aider ma condition asthmatique. Et avec ce virus-là, qui normalement peut s'attaquer là, aux poumons des gens, aux conditions pulmonaires, j'ai pas eu de problème à ce niveau-là. Donc, je remercie mes 3 doses de vaccin.
On déconfine, là. Les mesures sanitaires sont levées les unes après les autres. Est-ce que c'est prudent?
Est-ce que c'est prudent? Sylvain, c'est une dualité constante entre notre système de santé et nos activités sociales, économiques, notre acceptabilité sociale, puis les impacts psychologiques. Puis moi, je pense que c'est correct. C'est correct qu'on commence à déconfiner. On est beaucoup à l'avoir attrapé. Donc, il y a une certaine immunité collective qui s'est créée. On est vacciné. Donc, c'est correct d'avoir un plan de match pour déconfiner. Par contre, je pense qu'il faut être plus prudent Et je suis d'accord avec les autres interventions là, qu'il y a eu avant moi. Mais tu sais, c'est un virus qu'on connaît, mais qu'on connaît encore peu. Et comme j'aime le dire, ce virus-là a été plus fort que nous à date. Et le gouvernement lui prend des décisions face à un inconnu. On dit souvent que c'est un avion qui s'est construit en plein vol. Moi, je pense qu'on n'a pas fini de découvrir ce virus-là. Par contre, le virus tend à prendre une tangente qui est scientifiquement normale, c'est-à-dire qu'il devient très, très contagieux, mais moins virulent. Et ça, c'était la chose souhaitable. Ouais. Puisque ça arrive, je pense qu'on peut commencer à se permettre certains déconfinements.
Pharmacologiquement, c'est un grand mot ça, oui. Pharmacologiquement, on est mieux équipé qu'on l'était pour faire face au virus, je pense en particulier à ce fameux antiviral, là.
Oui, on est mieux équipé, ça reste que c'est un antiviral qui n'est pas disponible à grand déploiement, là, qui va être gardé pour des personnes qui sont plus fragiles. Mais oui, on est mieux équipé, mais je pense que la meilleure arme médicale qu'on a, Sylvain, c'est notre vaccin. Donc, c'est lui qui fait en sorte qu'on puisse permettre un retour progressif à la normale. Mais je tiens à dire une chose, c'est que de retourner en arrière serait bien pire que de progresser doucement. Donc, il faut absolument faire les choses doucement. Et je sais pas si vous avez vu, là, au Danemark, Ils ont eu un déconfinement qui a été très, très rapide et ils sont pris avec un pic de décès relié à un variant B2 Omicron. Il faut pas se leurrer, hein. Nos erreurs vont terminer en perte de vie humaine. Encore aujourd'hui, il y a 31 décès. Il faut jamais oublier que toutes les erreurs qu'on va faire vont conclure à des pertes de vie humaine. Donc, il faut être extrêmement prudent dans ce qu'on va faire. Mais c'est normal d'être tanné, mais il faut quand même faire très attention.
Merci beaucoup, David Gauthier.
Ça me fait plaisir, Sylvain.
Merci. Sophie Pagé-Sabourin est, j'espère ne pas me tromper là, enseignante en sciences politiques au cégep de Sorel-Tracy maintenant, Sophie?
Oui, nouvellement, depuis cet automne.
Vous nous envoyez ravis. Vous avez été candidate de Québec solidaire dans Richelieu. On vous connaît beaucoup pour ça aussi. Dites-moi, est-ce que vous le serez en octobre?
Non, j'ai pris la décision de pas me présenter en 2022. En fait, j'ai un nouveau contrat avec le gouvernement fédéral, puis mes nouveaux postes politiques ne me permettront pas d'afficher mes couleurs.
OK. Comment évaluez-vous, Sophie, la gestion de la pandémie par le gouvernement Legault? Quelle note lui donnez-vous?
Oh, quelle note! C'est difficile à dire, mais somme toute, je pense que au niveau de la santé publique, le gouvernement Legault a été prudent, puis a quand même fait ses devoirs. Okay? Il a bien essayé de protéger les personnes les plus vulnérables. Évidemment, c'était une crise historique. Ils ont dû s'ajuster rapidement. Ils ont fait des erreurs comme n'importe quel gouvernement aurait fait. Ce que je déplore, par exemple, c'est le fait qu'on soit encore maintenant dans un état d'urgence où que les oppositions à l'Assemblée nationale ont très peu de voix présentement.
Est-ce que vous avez envie de mettre une étoile dans le cahier là, du gouvernement pour l'allègement entrepris des mesures sanitaires qui auront le 14 mars à peu près toutes disparues?
Oui, je pense qu'on était rendu là. Tout le monde est vacciné, en tout cas la très grande majorité de la population est vaccinée. Les gens ont eu beaucoup le virus, donc il y a une certaine immunité collective dans la population. Donc je pense pour une réduction des méfaits là, au niveau psychologique, économique aussi pour nos petites entreprises, je pense qu'on était rendu là.
Quel impact aura eu, croyez-vous, le convoi pour la liberté sur les décisions gouvernementales? Est-ce que vous l'avez aimé ou apprécié ce convoi-là?
apprécie, non. Là. C'est sûr que je pense que prendre en otage des citoyens à Ottawa, là, c'était pendant 23 jours, c'est beaucoup trop long. Par contre, je ne suis pas certaine, moi, que le déconfinement de Legault est vraiment influencé par le convoi à Ottawa. Je pense que ces mesures-là seraient arrivées d'une manière ou d'une autre. Par contre, ils ont réussi à avoir quand même, il y a eu une réflexion quand même par rapport à ces décisions-là, par rapport à ce que le gouvernement Legault a toujours l'état d'urgence. Mais, par exemple, ce que je déplore, c'est la polarisation dans la société présentement. Là. Il y a vraiment un clivage entre les gens qui sont vaccinés et les gens qui sont non vaccinés. Puis on peut le voir sur les réseaux sociaux, là. Il y a vraiment un conflit qui apparaît.
Merci beaucoup, Sophie Pagé-Sabourin. Ça m'a fait plaisir. Merci.
Merci. Bonne journée.
Bonne journée à vous. Après la pause, Denis Gagné, qu'on rejoint au soleil de la Floride. Il est baveux. Guillaume Venn, propriétaire de cinéma. J'ai-tu dit qu'il était baveux? C'est épouvantable. Martin Rousseau, propriétaire de gym. Et Julie Laberge, tenancière d'une résidence pour aînés. À tout de suite.
Vous êtes préoccupé par ce qui se passe chez vous?
Alors ça, c'est une belle victoire parce que c'était tellement injuste pour les femmes. C'est parce que les hommes ne vivaient pas cette situation-là.
Vous êtes concerné par les décisions prises par nos élus. Votre rendez-vous hebdomadaire, la chronique du député fédéral de Bécancour, Nicolas Sorel, M. Louis Plamondon, tous les jeudis, dans l'émission Dans nos pantoufles, sur les ondes de CJSO 101.7. Durant tout le mois de février, optez pour un décor chaleureux, invitant et stylé avec Meubles André Beaulieu et profitez d'un rabais équivalent aux deux taxes sur tout, sauf les électroménagers. Grâce à notre vaste sélection de mobilier de chambre à coucher, de salon et de cuisine, de matelas, vous trouverez à coup sûr ce dont vous cherchez tout en économisant. Visitez lemeublebeaulieu.ca ainsi que notre page Facebook pour découvrir nos nouveautés et promotions. Pour un mobilier durable et de qualité, passez chez Meubles André Beaulieu dès maintenant. La Tribune, une présentation de Meubles André Beaulieu et de Lucier.
À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à La Tribune.
On parle de la levée des mesures sanitaires ce midi à La Tribune, mesures qui auront à peu près toutes disparu le 14 mars. Allons prendre un peu de soleil. On retrouve en Floride Denis Gagné. Allô, Denis?
Bonjour, Sylvain.
Hey, vous avez loupé de belles tempêtes de neige au Québec. Vous avez loupé le divertissant convoi de la liberté des camionneurs à Ottawa et Québec. Vous devez ronger votre frein de manquer tout ça. C'est pas drôle.
Oui, on a suivi par les médias à distance, évidemment. Là. Quotidiennement, on a suivi ces événements-là.
Comment la vie se déroule-t-elle en Floride? Les snowbirds là, qui sont partis pour le sud pour éviter la COVID-19, est-ce qu'ils ont eu le dépaysement souhaité ou pas tout à fait?
Oui, évidemment, c'est un peu différent des années dernières. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'ici, la COVID ne fait pas partie de l'actualité, disons. Il n'y a pas de rapport quotidien pour comptabiliser les décès et la contagion. Ici, on en parle plutôt de façon très générale. Il n'y a plus de mesures depuis l'été. Ce qu'il faut dire, c'est que le gouverneur de l'État croit peu à la COVID. Mais ce qui est remarquable, c'est, je peux vous dire, c'est pour le coin où nous, on est depuis quelques semaines, dans le sud, dans le sud-est, Ici, tous les commerces qu'on a visités, tout le monde a des masques, sans exception. Il y a même un commerce, une grande surface pas loin aussi, qui a un préposé à l'accueil, mais qui s'assure qu'on se lave les mains ou qu'on a un masque. Si on n'a pas de masque, il nous en remet un. Les gens font relativement attention. Évidemment, ici, c'est un peu plus facile parce qu'on est toujours à l'extérieur. Alors, même si on va au restaurant, on est en terrasse. Alors, c'est moins difficile, disons.
Le taux de vaccination en Floride, il me semble avoir lu 65% à deux doses.
Oui, environ, oui. Il y a des cliniques, ici, il y a des cliniques spontanées un peu partout. Autant des cliniques de vaccination que des cliniques pour faire le test pour voir si on a la COVID. Alors, une journée, c'est dans un stationnement d'épicerie. Le lendemain, c'est dans le stationnement d'un Costco. Il y en a un peu partout à chaque jour. Alors, les gens qui veulent se faire vacciner, ils sont pas obligés d'aller dans une pharmacie ou d'aller. Alors, c'est disponible un peu partout. En tout cas, je vous parle pour le coin ici où on est.
OK.
C'est très, très, très disponible.
Votre évaluation de la gestion de la crise au Québec, de la liberté qu'on nous autorise à retrouver, est-ce que c'est sage?
Moi, je pense que oui. Ça fait maintenant 2 ans qu'on fait affaire à ce virus. Évidemment, les choses ont évolué, ont changé. Comme ils ont dit au début, le gouvernement bâtissait l'avion et l'envol. Mais maintenant, je pense qu'on a des outils. On a la vaccination. Bon, on le sait très bien que plus on est vacciné, plus on est protégé. Le masque, laver les mains, on a des façons de faire maintenant. Notre quotidien a changé. On évite les foules, on fait attention. Alors, je pense que les gens sont prêts maintenant à vivre avec le virus, puisqu'il va falloir le faire. D'autant plus qu'on s'en va tranquillement vers la belle période. Et comme on va être plus à l'extérieur, moins confiné à l'intérieur, ben, je pense bien que les gens vont avoir plus de facilité à faire face à ce virus. Évidemment, il y a toujours le côté de la santé au Québec, où le système de santé est très, très, très sollicité. Ce qui n'est pas le cas ici, là, évidemment, ici, on n'en parle jamais, puisque c'est privé. Alors, ce n'est pas un enjeu. Alors qu'au Québec, ben, le gouvernement se doit de s'assurer que tout le monde a accès à la santé.
Ben, merci beaucoup, Denis Gagné. Faites-vous bronzer pour nous, là.
Merci,
Denis. Alors, Guillaume Venne du cinéma Saint-Laurent, maintenant, bon midi, Guillaume.
Bon midi.
Votre industrie y a goûté pendant la pandémie. Est-ce qu'elle a été trop touchée, déraisonnablement touchée par les mesures gouvernementales? Qu'est-ce que vous en pensez?
Ben, je pense qu'on n'a pas encore assez de recul pour voir ça. Est-ce que de là à dire trop, c'est sûr qu'on aurait... On aurait toujours aimé en avoir moins, évidemment, de mesures comme ça. On a prouvé avec cette pandémie-là que les cinémas étaient des endroits où il n'y avait pas d'éclosion. Même le directeur de la santé publique l'a même dit récemment. Alors, on en est bien fiers de ça. Et puis, il faut savoir que les cinémas, c'est des endroits où on est passif. Hein. On ne parle pas, on est supposé écouter un film et on se fait tous dos à dos. Et la salle comme telle est en général très bien aérée parce que le plafond est très haut. Donc, mais d'un autre côté, ben évidemment, je pas dire que je l'aurais pas pris, mais tu sais, si moi je suis ouvert quand tout le reste de la province est fermé, pas sûr que les gens auraient le goût quand même malgré tout. Là, il y a quand même un mouvement de masse là qui va soit du côté positif ou négatif par rapport aux mesures qu'on prend. Et là, ça va affecter peu importe qu'on soit ouvert ou fermé.
Est-ce que c'était fébrile à la réouverture des salles? Sentiez-vous que les cinéphiles s'étaient drôlement ennuyés?
Tout à fait. Oui, absolument. Parce qu'il ne faut pas oublier que pour le dernier confinement des salles de cinéma, là, ça s'est fait pendant le temps des fêtes. Alors nous, là, malheureusement, on nous a enlevé notre période où ce qu'on fait le plus de revenus, c'est-à-dire le temps des fêtes, et c'était vraiment bien, bien, bien parti. Alors, je pense que, par contre, qu'on n'a pas été assez fermé longtemps pour que les gens passent à autre chose. Alors, quand on a réouvert en février, les gens ont été au rendez-vous très rapidement, effectivement, et ça continue. Et ça continue beaucoup, et on a des ventes de comptoirs alimentaires qui sont exceptionnellement bonnes et élevées. Alors ça, c'est toujours plaisant à voir.
Les cinémas sont ouverts pour le moment à 50 % de leur capacité pour un maximum de 500 personnes par représentation. Le 28, ils le seront à 100 % le 14 mars. Plus besoin d'y présenter son passeport vaccinal. Est-ce que vous êtes soulagé?
Beaucoup. Le passeport vaccinal, avec les restaurants, on l'a eu très rapidement au mois de septembre. Alors, ça fait longtemps que c'est là, et puis mathématiquement, ça nous affecte. Hein, on ne veut pas seulement dire que quand c'est pas toute la population qui est vaccinée. Alors, c'est sûr qu'il y a des gens là-dedans qui viennent ou qui voulaient venir au cinéma. Et là, en voyant la troisième dose arriver avec le passeport qui allait peut-être continuer, mais ça a été un grand soulagement là, de savoir qu'on allait enlever ça et qu'on va avoir notre occupation à 100%, qui était le cas juste avant qu'on ferme. Hein. On avait eu cet assouplissement-là au mois de novembre. Alors ça permet vraiment d'avoir, quand on a des gros films, des films très populaires, d'avoir une rentabilité intéressante.
Est-ce qu'il va y avoir le 14 mars des personnes peu à l'aise d'aller au cinéma because 100% de capacité, because retrait du passeport vaccinal? Est-ce que vous pensez que ce phénomène-là va exister?
C'est difficile à dire. Ce que je peux dire, c'est que c'était pas le cas... Quand on avait notre 100% de capacité au mois de novembre et au mois de décembre, là, le temps qu'on était ouvert, on n'a pas senti de gens comme ça. Évidemment, les gens qui ne se sentent pas à l'aise sont très... c'est leur choix à eux, puis ils peuvent attendre que ça se replace, mais je ne sens pas quelque chose comme ça qui va se produire par rapport aux mesures qui vont se retirer tranquillement. Là, c'est pas le message qu'on a de notre clientèle.
Merci beaucoup, Guillaume Venn. Bonne continuité, là.
Merci à vous.
Merci. Martin Rousseau de Body Gym, bon mardi, M. Rousseau.
Bon mardi, mon Sylvain.
Ouais, vous, vous y avez goûté et celles et ceux qui vous suivent sur Facebook ont senti que le goût était amer. Le presto a sauté à une couple de reprises. Est-ce que vous calculez avoir été déraisonnablement touché par les mesures gouvernementales?
Bien, déraisonnablement touché, oui. Comme je l'avais expliqué au tout début de la pandémie, moi, je trouvais qu'on faisait plus partie de la solution que du problème. Parce que ceux qui vont fréquenter les gyms, c'est plus souvent des personnes qui sont en santé puis ils vont s'éloigner des hôpitaux le plus possible. Il y a beaucoup de gens qui font de l'hypertension, du diabète, puis ils commencent à s'entraîner, puis whoop, après ça, ben, ils lâchent les petites pilules. Il continue à s'entraîner, le cours de la vie, il suit son cours, là, puis écoute, c'est tout du monde en santé, le trois quarts qui fréquente les gyms, on se le cacherait pas non plus, là. Puis même avant la pandémie, nous autres, les machines sont toujours, tous les clients qui rentrent, autrement dit, notre clientèle, ils nettoient tout le temps les machines avant, pendant et après. Fait que, tu sais, les restrictions, je les ai trouvées un peu sévères, j'aurais aimé mieux, moi, qui nous disent, mettons, on va restreindre un peu l'accès, mettons, on va être à 50% comme on fait là, mais pas de fermer tout court, là, tout... que ce soit que les restaurants, les gyms, les bars, tu sais, j'aurais aimé ça que l'économie continue à rouler pareil. Là.
Les gyms ont pu rouvrir à 50 % de leur capacité le 14. Depuis hier, c'est 100 % À compter du 14 mars, plus de passeport vaccinal. Êtes-vous si content que vous allez tout oublier ce qui s'est passé avant?
Ben non, je l'oublierai pas, c'est sûr. T'sais, ça a fait une grosse plaie ça, dans l'industrie, ça c'est sûr et certain. Il y en a qui ont laissé leur chemise, comme on peut appeler là-dedans. Là. Mais oui, je suis extrêmement heureux de la décision du gouvernement parce que, écoute, on a perdu énormément de la clientèle parce qu'il y en a beaucoup là-dedans qui n'étaient pas vaccinés du tout, du tout. Puis en voyant même la troisième dose, là, je me suis dit, c'est faux qu'ils demandent une troisième dose pour le passeport présentement. Ça va encore faire encore plus mal que ce soit les restos, les gyms, les bars. Etc. Ça n'a plus d'allure rendu là, là.
Le convoi de la liberté, est-ce que vous avez vu ça d'un bon œil?
Au départ, je me suis dit, regarde, on donne une démocratie, je veux dire, tout le monde a le droit de manifester légalement, mais là, ce que j'ai vu en fin de semaine, c'était rendu dérisoire. Là. Ça avait perdu vraiment là, de son lustre, comme on appelle. Là.
Parmi votre clientèle, Martin, est-ce que vous pensez qu'il y en a qui vont faire un pas de recul en voyant votre gymnase plein? Est-ce que c'est quelque chose que vous appréhendez ou vous pensez que ce phénomène-là n'existera pas?
Non, moi, je pense que c'est le contraire. Il y en a beaucoup qui vont venir pour s'entraîner puis faire, comme on appelle en anglais, du PR. Il y en a beaucoup qui aiment ça, jaser. Ils se fréquentent puis ils jasent avec leur partenaire d'entraînement ou quoi que ce soit. Ça lui a fait un petit parlage, un copain pour s'entraîner ou une copine, quoi que ce soit. Non, je ne le vois de bon œil, ça.
Merci beaucoup, Martin Rousseau.
Merci, Sylvain.
Merci, salut. Bye. Julie Laberge dirige la Villa des Berges de Saint-Ours, une résidence pour aînés. Bonjour, Madame Laberge.
Bonjour, Monsieur Rochon.
Depuis hier, dans les résidences privées pour aînés, les mêmes conditions que pour la population générale, on recommande de limiter les visites dans les milieux de vie à un maximum de 10 personnes, maximum de 10 résidents à la même table dans les salles à manger. C'est un grand soulagement, ça, pour vos résidents?
C'est un très grand soulagement là, de pouvoir accueillir là, des visiteurs. C'est déjà une clientèle qui n'a pas beaucoup... qui n'est pas beaucoup en sociabilisation. Là. Depuis les trois dernières années, ben, les deux dernières années plutôt, là, ça a été difficile alors de revoir là, des membres de la famille, des amis, ça leur fait du bien, c'est sûr.
Est-ce qu'on a fait, là je reprends le terme de la ministre des aînés, Marguerite Blais, est-ce qu'on a fait de la surprudence dans les résidences pour aînés?
Ben, c'est sûr qu'avec le recul, il faut avoir, c'est que je regardais ça là, avec une rétrospection. Quand c'est arrivé là, en 2020, là, on la connaissait pas, la maladie. Et quand on a décidé, là, quand le ministre a décidé de fermer, ben, la santé publique a décidé de fermer la porte aux visiteurs, c'est pour préserver notre milieu le plus sain possible. Et ça s'est bien passé, mais c'était la décision à prendre. Parce qu'on connaissait pas la maladie, on n'avait pas d'équipement, on n'avait pas de masque, pas de jaquette, on n'avait pas de visière. On avait de la misère à se trouver des gants, là. Alors, c'était la décision à prendre.
Okay.
Par la suite, l'année passée, quand la maladie est rentrée dans la résidence, là, c'est encore des décisions qui étaient déchirantes parce que là, on a isolé nos résidents. Ça a été difficile pour eux, tout comme pour le personnel, là, de voir nos résidents se dégrader rapidement au niveau psychologique, au niveau physique. Ce qui n'est pas le but là, de notre résidence comme la nôtre, où c'est de permettre là, de permettre que les gens demeurent en santé là, physique, puis d'avoir de la socialisation. Alors, ça a été difficile, oui. Mais là, cette année, ça va mieux.
Bon. Vous vous sentez, en une minute, là, vous vous sentez comment, comme gestionnaire devant les allègements, là? Est-ce que vous vous sentez libéré? Est-ce que vous vous sentez craintive de voir arriver avec ces allègements une flambée de cas? Est-ce que c'est un peu les deux? Comment vous vous sentez?
Non, moi, je ne suis pas du tout craintive, là, avec les allègements. On a pris de l'expérience. Ça nous a donné des connaissances qu'on n'avait pas avant pour gérer des crises. Ça va toujours, la sécurité là, de nos résidents, ça va toujours demeurer la priorité. Et même que nous, on souhaite, là, avec les instances, d'avoir des gestions là, de risques plus personnalisées, plus adaptées à nos milieux, qui sont moins calquées là, sur les milieux comme les hôpitaux et tout ça, d'avoir des réalités calquées sur les résidents, de tenir compte de ça, puis d'être moins global là, dans leur vision. Mais non, nous, on n'a pas peur là, pour l'avenir.
Ben super. Merci beaucoup, Mme Laberge. Merci.
Au revoir.
Au revoir. De l'autre côté de la pause, Lisette Trépanier, Louis-René Lafont, Alain Larouche et Christian Deschênes.
Vous êtes au cœur de notre succès. Grâce à vous, GM Payet est toujours numéro un au Canada. Merci de faire partie de notre grande famille.
Un monde de vie chez Payet.
OK, Payet.
Leader centenaire bien implanté dans toutes les régions du Québec, Lucier Dale Parizeau devient Lucier. Une nouvelle identité pour mieux représenter notre marque rassembleuse. Toujours la même écoute, toujours le même service conseil, avec une seule mission, trouver la meilleure façon de protéger vos actifs humains et financiers. Découvrez notre vision renouvelée. Lucier.co.
Durant tout le mois de février, optez pour un décor chaleureux, invitant et stylé avec Meubles André Beaulieu et profitez d'un rabais équivalent aux deux taxes sur tout, sauf les électroménagers. Grâce à notre vaste sélection de mobilier de chambre à coucher, de salon et de cuisine, de matelas, vous trouverez à coup sûr ce dont vous cherchez, tout en économisant. Visitez lemeublesbeaulieu.ca ainsi que notre page Facebook pour découvrir nos nouveautés et promotions. Pour un mobilier durable et de qualité, passez chez Meubles André Beaulieu dès maintenant.
La Tribune, une présentation de Meubles André Beaulieu et de Lucier.
À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à La Tribune.
Hey, savez-vous quoi? Moi, là, j'ai le goût de féliciter Laurent Cournoyer qui m'accompagne toujours pour ces tribunes. Je vous assure que c'en est de la gymnastique. On a à chaque édition une douzaine d'invités. Alors... Ouh là 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 là, c'est quelque chose. Alors, Lisette Trépanier est présidente du syndicat de l'enseignement du Bas-Richelieu. Bonjour, Madame Trépanier.
Bonjour, Monsieur Rochon.
De quoi a l'air le moral dans les écoles? La liberté qu'on retrouve peu à peu dans la société, ça vient avec soulagement ou ça vient avec crainte? Qu'est-ce qui se dit dans les corridors là et les locaux de profs?
Ben, c'est un peu partagé. Il faut comprendre qu'enseigner avec des masques, des visières, c'est pas évident pour personne. Par contre, leur sécurité est importante. Depuis 2 ans, la gestion de la pandémie dans les écoles, elle a reposé presque entièrement sur les épaules des gens des équipes écoles. Fait que les enseignants, ils ont été, puis ils sont encore mis à rude épreuve par le virus. Aussi, le changement des consignes, qui sont toujours à la dernière minute, qui sont des fois pas claires, qui se contredisent. Dans le fond, les enseignants, ils ont dû revoir la façon d'enseigner. Ils ont dû se revirer sur un système à plusieurs reprises pour adapter leur enseignement. Puis on sait que les élèves, certains ont accumulé des retards importants. Puis encore une fois, bien, c'est aux enseignants à essayer de combler ces retards-là. Fait que dans le fond, ce qui serait important, c'est que si on enlève les masques dans les écoles, comme vous dites, c'est que ça doit s'appuyer sur la science et non sur la politique.
Ouais, là, ça a l'air que c'est pour bientôt. Ça circule, là, cette information-là, que ce serait pour bientôt la fin du masque dans les écoles primaires et secondaires. Il y a une date même qui circule, là, le 7 mars, là.
Ben, il va falloir, dans le fond, que ça repose sur la science pour regarder nos équipes écoles, les élèves aussi en sécurité, Puis il faudra faire preuve de transparence sur les données sur lesquelles on va se reposer pour prendre une décision comme ça.
Les sondages, ils n'accordent pas une note particulièrement reluisante au ministre de l'Éducation. On pourrait dire que c'est un ministre en difficulté d'apprentissage. Pourtant, enseignant lui-même de formation, comment vous expliquez qu'un des vôtres ait tant de détracteurs parmi les siens?
Mais souvent, il agit trop peu puis trop tard. Puis il a manqué beaucoup de clarté. Des fois, il y a des éléments qu'il disait en entrevue. Puis là, nos enseignants nous disent « Ah, il l'a dit en entrevue, mais dans ce qui était envoyé dans les consignes écrites aux commissions scolaires, des fois, c'était différent, c'était pas les mêmes choses. On regarde juste ce qui est arrivé avec le dossier de la qualité de l'air, qui pendant des mois, c'est rien passé. Là, à un moment donné, il y a eu l'histoire des tests non validés par Santé publique. Ensuite, on parle de lecteurs de COD qui sont pas encore arrivés dans toutes les écoles.
Alors, qu'est-ce que ça a l'air chez nous, sur le territoire là, du centre de services scolaires de Sorel-Tracy, ces lecteurs-là?
Je sais qu'il y en a eu d'installés, puis malheureusement, je suis pas capable de vous prétendre s'il y en a partout ou non. Je sais que c'est commencé, ça a créé beaucoup d'inquiétudes aussi, parce que les enseignants, au début, regardaient beaucoup, puis voulaient comprendre là comment ça fonctionne, qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui est, ben, pas légal, mais normal, et qu'est-ce qui ne l'est pas. Puis des fois, ça dépend des moments aussi. Quand l'enseignant est tout seul à travailler dans sa classe, le lecteur est correct. Puis des fois, quand la classe est remplie d'enfants, ben c'est autre chose. Fait qu'il faut tenir compte de bien des facteurs.
Lisette Trépanier, merci beaucoup et félicitations aux vôtres, les enseignantes et les enseignants, pour leur courage pendant tout le temps là, qu'a duré cette crise qui n'est pas tout à fait finie. Ne détrompons-nous. Merci.
Merci.
Merci. Louis-René Lafont tient le pub Okanagan. Bonjour, Louis-René.
Oui, bonjour, M. Rochon.
Okanagan est élu député du Parti patriote dans le comté de Yamaska à l'élection de 1834. On a beaucoup vu le drapeau des patriotes, vous avez dû remarquer ça comme moi, dans les manifs contre les mesures sanitaires. Est-ce que ça vous a fait plaisir ou ça vous a fait déplaisir?
En fait, c'est une très bonne question. Je pense que c'est plus un déplaisir de la façon que ça a été arboré. C'est sûr que...
Ça n'a pas rap, comme disent les jeunes, hein?
Ben, c'est ça. C'est pas très tellement rapport, surtout à représenter avec un drapeau du Canada. Mais bon, je pense que les gens utilisent les symboles comme qu'ils veulent maintenant. Et en effet, c'était peut-être pas la meilleure façon d'utiliser le drapeau des patriotes.
Ouais. Vous pourrez enfin, le 28 février, à 50 % de votre capacité d'accueil, rouvrir. Ce sera à 100 % à compter du 14 mars. Et à cette date-là, sans passeport vaccinal, soulagement est-il le mot?
Oui, très grand soulagement. C'est sûr que nous, on a dû fermer nos portes assez rapidement. C'était le 20 décembre dernier. Donc, ça fait au-dessus de deux mois qu'on est fermé. Évidemment, on a tous hâte de revenir, de rencontrer nos amis, nos familles. Puis, c'est ça, c'est des endroits qui sont faits pour socialiser. Et je pense que ça manque à tous là, de pouvoir de se rencontrer à nouveau. Puis, en effet, là, on a aussi hâte au 14 mars de retirer le passeport vaccinal, qui était, somme toute, une bonne mesure. Je pense pas que ça ait été trop mal perçu, mais c'est sûr que pour nous, les commerçants, c'est toujours un petit peu plus compliqué là, à faire appliquer. Puis, c'est pas toujours plaisant là, de jouer à la police pour le gouvernement. Mais bon, on comprend la situation. On était prêt à faire les efforts et c'est ce qu'on a fait là, dans les derniers mois, dernières années. Donc maintenant, ben, on est content qu'on ait une date d'ouverture puis aussi une date du retrait là, du passeport vaccinal et autres restrictions.
Vous annoncez déjà quelque chose même, hein?
Oui, c'est exact. En fait, nous, on est vraiment focusé sur la scène musicale. Donc, on a chaque vendredi, on aura un 5 à 7 avec notre événement, avec notre amie Evelyne qui fait sa soirée Evelyne reçoit de 5 à 7. Donc, c'est souvent des spectacles un petit peu plus acoustiques. Puis aussi en soirée, les vendredis en soirée, aux alentours de 10 heures. Là, probablement que les deux premiers vendredis, on va les faire vers 9 heures parce qu'on doit cesser l'alcool à minuit. Donc, on risque de de commencer les spectacles un peu plus tôt, mais...
Ouais, ça, c'est moins drôle pour vous, hein, ça, là, d'arrêter de l'alcool à minuit, vous trouvez ça un petit peu plate, là, hein?
C'est ça qui est un peu difficile pour nous. Évidemment, on est un pub, là, on est un bar, fait que souvent, les gens arrivent après leur souper, arrivent vers 10 heures, ben, tu sais, 9h, 10h, puis... Faut déjà préparer les clients que à 11h, 11h30, on commence qu'on appelle le last call. Fait que c'est comme si les clients souvent arrivaient. Il y avait l'impression d'être arrivé, qu'il y avait une belle ambiance, mais que déjà, il faut les préparer. Heureusement, on parle seulement de 2 semaines, mais c'est encore une mesure là, qu'il faut appliquer puis qu'on applique là, depuis le début.
Bon, ben il est 12h51, on ferme l'entrevue. Merci beaucoup, Louis-René.
Ça fait plaisir, M. Rojon.
Salut, bye-bye. Alain Larouche est directeur général et artistique par intérim d'Azimut Diffusion. Bon midi, Alain.
Bonjour, Sylvain. Ça va bien?
Oui. À compter du 28 février, Alain, fin de la limite de capacité pour les salles de spectacle, puis le 14, plus de passeport vaccinal. Est-ce que vous criez « yé »
On crie « victoire », on crie qu'on est content, d'accueillir les gens, on reste prudent. De pas trop faire la fête fort, mais on trouve que le moment est bienvenu d'ouvrir notre salle à 100%, d'accueillir les gens, de pouvoir ouvrir le bar, d'avoir un accueil comme avant une pandémie. On se croise les doigts que ça demeure. Où on est content, je pense, et Azimut Diffusion et les diffuseurs, c'est d'avoir... qu'on a demandé nombreuses fois de la prévisibilité. On est enchanté de ça, mais on ne peut pas présumer de la suite. On a reçu tout un croc en jambes de Omicron. Ça peut arriver, mais on est très heureux de redémarrer là, nos activités de façon quasi normale.
Est-ce que votre clientèle accueille ces allègements avec des hurrahs ou l'idée de partager la salle avec 100% de spectateurs fait des craintifs?
Je pense qu'en général, les gens sont très heureux de se retrouver dans la salle. On n'a pas senti, on a eu quelques événements à date, on a eu 3 événements où on était à 50%, mais il y avait quand même une certaine promiscuité. Il n'y avait pas de distanciation importante, puis on n'a eu aucun commentaire. On ne peut pas dire qu'on sent une crainte de la part de nos clients. Je pense que, comme dans beaucoup d'autres activités qui s'ouvrent à nouveau, les gens sont très contents de les reprendre. Et d'aller au spectacle, c'est aussi une activité importante que les gens aiment faire, puis ils sont heureux de le faire, puis dans les conditions où on les fait présentement aussi, ils sont heureux de se retrouver.
Les artistes doivent être particulièrement contents.
Les artistes sont très contents. Les artistes, ceux que j'ai rencontrés depuis 2 semaines, sont très heureux de retrouver leur public. Même ils sont contents d'aller les revoir à la fin des spectacles. C'est des choses qui leur ont manqué, ce contact-là. Non, ils sont enchantés, ils sont généreux de se retrouver à nouveau sur la scène. Fait que ça fait des beaux moments. On vit des beaux moments de retrouvailles.
Bon, donnez-vous une bonne note au gouvernement Legault pour sa gestion de la crise en lien avec le monde du spectacle?
Je pense qu'il y avait à composer avec une situation extrêmement complexe. Au fil des 2 dernières années, ils ont appris. On peut penser qu'à certains moments, il n'allait pas dans le sens qu'on souhaitait ou que les coûts étaient moins bons, mais je pense que c'est une situation qui était difficile à gérer. Où on peut avoir des regrets, c'est que souvent, il y a des mesures qui ont été mises en place, qui ont été retirées. Toute la question de va-et-vient a été très lourde sur les opérations d'une salle de spectacle, mais là, je pense qu'avec l'expérience des 2 dernières années, tout le monde a appris, a trouvé des manières de fonctionner. Puis là, j'ose souhaiter que la réouverture présente est sur du long terme parce qu'on a appris à fonctionner avec la maladie, avec l'épidémie. Mais d'un autre côté, on doit quand même reconnaître que dans le cas des salles de spectacle, le gouvernement Legault, à travers le CALQ, a quand même supporté des diffuseurs qui ont eu des pertes de revenus à la billetterie. Fait que je me permets pas de lancer des roches au gouvernement à leur place, parce qu'il y a quand même en partie, dans une large partie, supporté les diffuseurs qui ont arrêté de présenter des spectacles. Mais je pense que pour tout le monde, pour tous les paliers de gouvernement, ça a été il y a eu des décisions difficiles à prendre. Il y a eu des décisions qui n'étaient peut-être pas les meilleures. Mais je suis très content qu'on ouvre maintenant.
Ben oui, on s'en doute bien. Merci.
La prévisibilité.
OK. Merci beaucoup, Alain Larouche.
Ben, ça m'a fait plaisir.
Merci, Alain. Salut.
Bye.
On termine cette émission en compagnie de Christian Deschênes des Éperviers de Sorel. Salut, Christian.
Salut, Sylvain.
Fin de la limite de capacité pour les enceintes sportives de moins de 10 000 personnes le 28 février contre Thetford, vendredi au Colisée. On sera toujours à 500. Mais le 3 mars, là, si je suis bien votre calendrier, j'espère que j'ai le bon, là, le 3 mars contre Jonquière, vous pourrez faire le plein de spectateurs.
Oui, c'est ça. Dans le fond, dès ce vendredi, on va être à 50 % de capacité. On était à 500 la semaine passée. Cette semaine, on tombe à 50 %, puis après ça, on va ouvrir nos portes. Toutes nos portes vont être ouvertes pour accueillir nos participants.
Pensez-vous qu'il va y avoir bien du monde le 3 mars?
Assurément. Assurément, parce que honnêtement, cette année, Sorel, encore une fois, se situait dans les... Je pense qu'on était premier avant l'arrêt. Au niveau des spectateurs, dans le fond, au niveau de la moyenne. Donc, je vois pas pourquoi que les gens ont hâte. Honnêtement, tu sais, je vous cacherai pas que sur le moral, c'est un peu, des fois, ça a été dur parce que redécoller, mais à chaque fois, dans le fond, les témoignages des gens m'écrivent personnellement sur Messenger comment ils ont hâte que ça recommence, comment ça leur manque. Donc, ça finit par être un petit peu le petit boule, comme on pourrait dire, pour repartir la machine à chaque fois. Là.
Toi, tu portes beaucoup de chapeaux. Tu as ton casque de hockey, mais tu as beaucoup d'autres chapeaux. Tu es un homme d'affaires. Tu tiens notamment le resto-bar, les tire-bouchons. Là, vous êtes à 50 % de capacité. Le 14 mars, ce sera 100 % Plus de passeport vaccinal. Ça va faire quoi? Ça va être plein raide de monde au tire-bouchon, tu crois?
Ben, je pense que dans toutes les activités, je veux dire, c'est pas par rapport seulement aux éperviers, les restaurants. Je pense que tous les domaines, c'est la même chose. Les gens, là, on est beaucoup, oui, se sont privés beaucoup, puis c'est juste normal que quand on va partir, honnêtement, les gens vont voir ce que tu peux aller, puis retrouver un semblant de vie normale comme on a connu il y a quand même assez un bon bout de temps, tu sais. Fait que, assurément que les terrasses, tout ça, ça va être une période fort achalandée, puis comme on pourrait dire, la machine, je veux dire, les gens de restauration vont l'avoir encore à la dure indirectement parce que, oui, ils vont être au travail, mais encore là, ben, nous, on a connu cet été quand ça repartit, je veux dire, les journées s'étaient décalées. Un mercredi soir ressemblait à un vendredi, puis vice-versa. Le vendredi était pratiquement une nouvelle journée qu'on n'avait pas connue jamais, là, tu sais, avec des doubles et des triples services. Fait que c'est sûr que ces gens-là vont être encore une fois. Cet été, vont avoir un été à chalander, assurément.
Ben merci beaucoup, Christian Deschênes, puis go épervier, go, là.
Merci, Sylvain.
Salut. Alors, merci à l'ensemble de mes invités, Julie Laulier, René Lachapelle, David Gauthier, Sophie Pagé-Sabourin, Denis Gagné, Guillaume Venn, Martin Rousseau, Julie Daberge, Lisette Tépanier, Louis-René Lafont, Alain Larouche et Christian Deschênes. Merci à nouveau à Laurent Cournoyer au standard téléphonique. Chers amis, la semaine prochaine, on va s'intéresser à ce qui pourrait vous intéresser pour la relâche scolaire. Bonne semaine tout le monde!